Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue donc dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, un projet d'attaque au couteau déjoué. À l'approche de Noël en région parisienne, la DGSI a interpellé 2 hommes. Les toutes dernières infos dans un instant. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calèche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La démission d'un ministre, Alain Grisé, en charge des PME, quitte ses fonctions après avoir été condamné pour n'avoir pas tout dit de son patrimoine au moment de sa nomination. L'école toujours en première ligne face au Covid, quasiment un enfant sur 100 touché à l'échelle du pays et des établissements parfois obligés de fermer face à la multiplication des cas. Illustration dans le Doubs. À suivre aussi, premières heures et premier dossier à gérer pour le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et puis l'espoir de Lille qui veut poursuivre le rêve européen. Match de Ligue des Champions ce soir face à Wolfsburg. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes, il fallait jouer le 9, le 7, le 2, le 4 et le 12.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL vous en dira plus sur le variant Omicron. Avec 3 doses de vaccin, vous devriez être protégé. À suivre aussi, Emmanuel Macron à Vichy. Déplacement chargé d'histoire, le président tacle Éric Zemmour et appelle à ne pas manipuler l'histoire. L'historien Olivier Viviorca, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, sera notre invité de 18h15. 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du road trip de la rédaction Paris-Saint-Malo en Zoé électrique aujourd'hui et c'est possible. 18h40, on défait le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini et la fine bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme ?
Ce soir, cap sur la croissance et ce chiffre record annoncé ce matin sur RTL. Plus 6,7%. Alors c'est beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change pour vous? Vous comprendrez tout au menu également. Les citrouilles à prix d'or de Louis de Funès et l'école de la forêt.
Pour le débat, rendez-vous 19h15. On refera le monde autour d'Éric Brunet. Et pour des points réguliers sur le temps, c'est tout au long de l'émission avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance en un mot.
Moins agité, mais un temps gris humide à l'ouest et sur la façade est et sec avec des éclaircies sur les régions centrales.
Détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
C'est donc un nouveau projet d'attaque qui a été déjoué. 2 suspects arrêtés la semaine dernière en Ile-de-France.
Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
Les 2 hommes de 23 ans projetés de s'attaquer à des passants dans des endroits très fréquentés pendant les fêtes.
Oui, tout commence par un tuyau donné au service de renseignement. 2 jeunes parleraient de semer la mort d'ici Noël. L'un d'eux est déjà connu de la DGSI pour sa radicalisation. Les 2 hommes sont entrés en contact sur Internet il y a très peu de temps. Puis ils se rencontrent au moins une fois physiquement. La DGSI ne veut pas attendre. Les 2 jeunes sont immédiatement placés en garde à vue. L'un passe aux aveux. Oui, le duo envisageait de passer à l'acte pendant les périodes de fête. Plusieurs cibles évoquées, des rues bondées, des universités, des centres commerciaux, dont un en particulier situé en région parisienne. Il décrit son complice présumé comme le plus motivé de l'équipe. Il lui aurait suggéré d'utiliser des couteaux pour tuer des mécréants au hasard avant de mourir en martyr. Le second suspect, lui, nie tout projet d'attentat. À leur domicile, la police a saisi un couteau et plusieurs téléphones et ordinateurs. À l'intérieur, de nombreux documents djihadistes et des vidéos sanglantes signées État islamique. Les 2 jeunes sont aujourd'hui en prison.
Les précisions de Cindy Hubert pour RTL. Lui a été relâché. Le Saoudien arrêté hier à l'aéroport de Roissy n'était en fait pas l'homme recherché dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Homonymie parfaite. Mais des éléments judiciaires venus de Turquie l'ont finalement fait libérer. Il n'avait pas déclaré une partie de son patrimoine après sa nomination au gouvernement. Le ministre des PME, Alain Grisé, condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis.
Et s'il a fait appel de cette décision, eh bien il a aussi décidé de démissionner, Benjamin Sportouche.
Oui, c'est certainement aujourd'hui qu'on entendra le plus parler de ce ministre délégué auprès de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il lui est reproché précisément de ne pas avoir déclaré un plan d'épargne en actions de 171 000 euros et des participations directes dans plusieurs sociétés comme la Française des Jeux. Un faux pas qui coûte donc son poste à celui qui avait commencé sa carrière comme chauffeur de taxi et qui était au gouvernement depuis 1 an et demi. Le Premier ministre a salué ce soir, je cite, « l'esprit de responsabilité d'Alain Grisé ». Mais cette situation, clairement, n'était pas tenable à quelques mois à peine de l'élection présidentielle. Un trop gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Mis en examen, il pouvait rester au gouvernement. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, mis en examen depuis juillet dernier, mais condamné, impossible de rester. Alors, selon nos informations ce soir, Alain Grisé devrait être remplacé Le nom de Jean-Noël Barrot ce soir circule avec insistance. Député des Yvelines, numéro 2 du Modem. Le parti de François Bayrou, bien sûr, devrait être fixé assez vite.
Les explications de Benjamin Sportouche pour RTL.
C'est la dernière étape du déplacement d'Emmanuel Macron dans le Cher et dans l'Allier. Et après avoir appelé à respecter l'histoire en référence tacite à Éric Zemmour, qui affirme que le maréchal Pétain a sauvé des Juifs, cette dernière étape sera tout en symbole. À Vichy, vous êtes sur place pour RTL, William Galibert, avec un premier moment de recueillement en ce moment pour le chef de l'État.
Oui Marion, les images parlent parfois d'elles-mêmes et là il y a quelques minutes, dans le silence, dans le froid de cette soirée vichysoise, le président s'est d'abord recueilli devant une stèle hommage aux Juifs déportés. Il était accompagné par les époux Klarsfeld, Beate Serge Klarsfeld, fils et fille de déportés qui ont dédié leur vie à la traque des anciens nazis. Et puis autre instant de recueillement qui s'est terminé il y a quelques secondes devant une plaque qui célèbre 80 parlementaires, ceux qui ont dit non. Non au maréchal Pétain, non au plein pouvoir pour Pétain en 1940. Et là aussi, ce moment a été parfaitement silencieux. Et si jamais le message présidentiel n'était pas bien clair, il y a ajouté quelques mots. Là, c'était ce matin. Gardons-nous de manipuler l'histoire, de l'agiter, de l'utiliser, a dit Emmanuel Macron. Le nom d'Éric Zemmour n'a pas été prononcé, mais on a tous compris que c'était à lui que s'adressait le message.
William Galibert à Vichy pour RTL. La politique avec cette lettre ce soir d'Arnaud Montebourg, le candidat à la présidentielle appelle à un rassemblement de la gauche et se dit prêt à offrir sa candidature.
RTL, 18h06. Ils sont au cœur de la cinquième vague de Covid en France, dans certains départements. Écoutez bien, un enfant sur 50 est en ce moment contaminé et l'école fatalement, on fait parfois les frais.
Comme dans cette école primaire de Serlet-Sapin, près de Besançon, vous vous êtes rendu pour RTL, Dimitri Ramelot. Désormais, une quarantaine de cas positifs sur 220 élèves. L'école a dû être fermée hier.
Oui, le périscolaire était déjà suspendu depuis jeudi dernier après l'infection d'une animatrice. Pire encore, lundi soir, 24 enfants positifs sur 4 classes. La préfecture a donc publié un arrêté de fermeture de l'école et les parents comme Angélique de s'interroger sur cette explosion de cas.
C'est une grosse école, le centre périscolaire est ouvert les mercredis pour les enfants dont les parents travaillent. Il y a beaucoup d'enfants, hein. C'est pas 10 enfants qui sont gardés, c'est une cinquantaine d'enfants mais les gestes sont respectés. On est dans des petites communes donc ils font tous du sport ensemble, donc il y a peut-être de ça aussi. Hein.
Et donc test pour tous les enfants depuis avant-hier, bilan 41 cas positifs, sans compter les 4 encadrants touchés également, soit 20% des effectifs de l'école qui ouvrira ses portes mardi à une condition. Véronique Gentil, adjointe au maire en charge de l'établissement.
Test signalé à la directrice, savoir si les enfants sont positifs ou négatifs. Et à partir de là, elle le signalera, je pense, à l'ARS. Et ils décideront s'ils rouvrent bien le 14 ou pas.
Plusieurs parents auraient préféré une réouverture début janvier afin d'écarter tout danger, même si l'école a déjà été désinfectée plusieurs fois.
Dimitri Ramelot dans ce département du Doubs hein, qui affiche le sixième taux d'incidence le plus élevé parmi les 6-10 ans. Et au-delà du Covid, l'épidémie de grippe menace désormais dans le sud-ouest. La bronchiolite, elle, continue de se répandre dans toutes les régions. À Sanary-sur-Mer, on l'a appris cet après-midi, le corps de la dernière personne portée disparue après l'effondrement d'un immeuble a été retrouvé. Il s'agit d'un homme de 58 ans.
Une petite pause dans ce journal sur RTL et ensuite on part en Allemagne parce que l'Allemagne a un nouveau patron et il a du pain sur la planche. Nous serons à Berlin dans un instant. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. Il a promis un nouveau départ pour l'Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz a pris ses quartiers aujourd'hui à la chancellerie.
Oui, élection, prestation de serment à la mi-journée.
Dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Et premier conseil des ministres pour le sexagénaire qui succède à Angela Merkel. Léo Brauer-Potier, vous êtes à Berlin pour RTL avec d'ores et déjà pour le nouveau chancelier plusieurs chantiers prioritaire.
Ouais, des chantiers comme la crise de la Covid sur le modèle de ne pas faire comme Angela Merkel justement, c'est-à-dire à se retrouver à réagir aux crises. D'autres chantiers comme par exemple tenir les promesses de campagne électorale. Scholz, le social-démocrate, a promis de passer le salaire horaire de 9,60 € à 12 € de l'heure et de construire des centaines de milliers de logements en Allemagne. Si on ajoute à cela qu'il faudra trouver la bonne formule entre les écolos et les libéraux qui composent le gouvernement. Les premiers veulent la fin du charbon idéalement dès 2030. Les seconds ne veulent absolument pas sacrifier l'économie sur l'autel de la transition écologique. Il va falloir être un fin négociateur pour trouver un consensus sur chaque question difficile. Olaf Scholz devra enfin tenir le rang de l'Allemagne en Europe et dans le monde. Et ça tombe bien car le nouveau chancelier est attendu vendredi à Paris et à Bruxelles.
Léo Brouwer-Potier à Berlin pour RTL. Et justement, des messages venus de Paris et de Bruxelles. Emmanuel Macron a promis à Olaf Scholz d'écrire la suite ensemble. La présidente de la Commission européenne, elle, a dit vouloir travailler avec le nouveau chancelier pour une Europe forte. L'Europe, ce soir, en foot, c'est ce match pour l'histoire pour les joueurs du LOSC, Lille opposée aux Allemands de Wolfsburg en Ligue des Champions.
Samuel Duhamel, vous allez suivre la rencontre ce soir pour RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Les Lillois qui espèrent rejoindre Paris en huitième de finale, pour ça, ils ne doivent pas perdre.
Oui, pour cette finale du groupe, les Lillois disposent d'un petit joker. Un simple match nul les qualifierait pour le prochain tour. Mais José Fonte, le capitaine portugais du LOSC, souhaite que son équipe joue vers l'avant sans gérer le résultat.
On pense qu'il a gagné. On pense qu'à ce match-là, à ce moment, la confiance elle est haute. L'énergie est bonne. Nous sommes positifs.
Et il faudra de l'énergie pour cette rencontre, l'une des plus importantes de l'histoire européenne du club. Les Lillois peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de leur histoire. 15 après leur dernière rencontre à ce niveau, ils ont toutes les cartes en main. Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur lillois, le sait et il ne souhaite surtout pas que l'enjeu tétanise ses joueurs.
C'est un match de très très haut niveau, évidemment parce que c'est une qualif en Champions League, en 8e. Mais voilà, je reste pragmatique. C'est un match qu'on a bien préparé et puis après il faudra rester avec beaucoup de force, beaucoup de détermination mais aussi beaucoup de sang-froid.
Dans un stade qui va sonner creux pour cause de Covid et face à un adversaire décimé par les blessures, les Lillois peuvent atteindre leur rêve, intégrer les 16 meilleures équipes du continent, 6 mois après avoir gagné le titre de champion de France.
Samuel Duhamel à Wolfsburg en Allemagne pour RTL. On vous retrouve, Samuel, 20h40 ce soir pour suivre ce match du LOSC en direct, en intégralité sur notre antenne.
C'est la Dream Team de l'année et elle compte un Français. Le World Rugby a dévoilé aujourd'hui son équipe de 2021 avec en demi de mêlée le Toulousain Antoine Dupont, également en course par ailleurs pour le titre de meilleur joueur de l'année qui sera décerné après-demain vendredi.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Ça faisait longtemps, à très bientôt. Le petit message tout à l'heure sur les réseaux sociaux de Stromae. Il avait déjà dévoilé ce single il y a quelques semaines.
Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
Santé, ça c'était le single de Stromae. On connaît désormais le titre de son album et la date de sortie. Multitude, on le connaîtra. Il sera dévoilé le 4 mars prochain.
C'est noté. C'est le journal de Marion Calais, présidente du fan club de Stromae. Dans l'Aveyron, chez elle. Merci beaucoup Marion.
Je veux bien adhérer au fan club.
Vous voulez adhérer au fan club, par contre il faut aller dans l'Aveyron. Voilà.
C'est pas grave.
C'est loin mais c'est beau,
comme dirait l'autre. Le temps maintenant, Peggy.
Moins agité demain, malgré l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la façade ouest, avec de faibles pluies le matin, de la neige à basse altitude sur tous les reliefs, chargé et humide également sur les Ardennes et sec partout ailleurs. Dans l'après-midi, c'est simple, une France coupée en trois à la verticale. Nuageux sur un tiers ouest avec de la pluie sur la façade atlantique, des pluies plus soutenues sur les Pyrénées. Sur les régions centrales, entre le nord, l'Île-de-France, la Méditerranée, un temps sec et des éclaircies. Et gris sur la façade est avec encore quelques flocons sur les reliefs. En Corse, un temps plus calme qu'aujourd'hui avec quelques petites pluies résiduelles. Et puis tout ça sous des températures en baisse le matin de 1 à 6 degrés globalement. Les maximales 4 à Besançon, 8 à Paris, 9 à Abbeville, 10 à La Rochelle, 12 à Biarritz et 14 à Nice.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et maintenant sur RTL, la suite du feuilleton Omicron. Que sait-on de ce menaçant variant? Les vaccins sont-ils résistants? Ça y est, nos éminents scientifiques ont enfin des résultats préliminaires. On va donc poser trois questions à la brigade RTL pour en savoir un petit peu plus. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Alors déjà, Pfizer rassure, son vaccin reste efficace contre Omicron.
Oui, mais le problème, c'est que pour qu'il soit aussi efficace que sur le Delta, il nécessite 3 injections. Selon le laboratoire, les personnes vaccinées avec 2 doses seulement ne sont probablement pas suffisamment protégés. Pour Moderna, les études sont en cours en Allemagne et les premiers résultats suggèrent eux aussi une moindre efficacité sur Omicron.
Donc moralité, allez faire votre rappel. Pour autant, Pfizer prépare quand même un vaccin spécifique Omicron.
Oui, et Moderna aussi d'ailleurs. Les deux laboratoires laboratoires travaillent depuis des mois sur des prototypes de vaccins adaptés aux variants. Ils se sont donc entraînés sur Alpha, sur Beta, puis sur Delta, mais ils ont abandonné tous ces projets lorsque les études ont montré que ces vaccins initiales fonctionnaient finalement très bien. Ils ne repartent donc pas de zéro avec Omicron. Pfizer promet même de pouvoir commercialiser ce vaccin d'ici le mois de mars. Mais le temps pour l'Europe de commander les doses et d'être livrés, on ne pourrait théoriquement les utiliser qu'en juillet prochain. Autant dire que ne pas faire son rappel aujourd'hui parce qu'on attend ces nouvelles doses, c'est une franchement très mauvaise idée.
Au final, qu'apprend-on là au fil des jours sur ce variant ?
Alors, qu'il est donc plus résistant au vaccin. On sait aussi qu'il est au moins aussi contagieux que Delta. Peut-être plus encore, ça, on n'a pas encore les données pour l'affirmer. Enfin, concernant les symptômes, aucun signe n'indique à ce stade qu'Omicron est plus grave que les autres. Les premières données venues d'Afrique du Sud indiquent qu'il engendrerait moins d'atteintes respiratoires, que les symptômes seraient plus légers, mais ces études sont vraiment à prendre avec précaution. C'est ce qu'indique le Conseil scientifique, car en Afrique australe, la population est très jeune, donc moins sujette aux formes graves.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Agathe Landais. Une petite pause dans RTL Soir. Ensuite, on va accueillir notre invité Olivier Viviorca, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Au moment où Emmanuel Macron est en déplacement à Vichy, le chef de l'État qui tacle Éric Zemmour et appelle à ne pas manipuler l'histoire. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h20. Ce soir, RTL se plonge dans notre histoire. Emmanuel Macron est en déplacement à Vichy. C'est une première pour un président depuis 1978. Le chef de l'État qui s'est recueilli il y a quelques minutes devant une stèle qui honore la mémoire des Juifs déportés. Une plaque également en mémoire des 80 parlementaires qui s'étaient opposés au maréchal Pétain. Visite lourde de sens au moment où Éric Zemmour, candidat à l'Élysée, bouscule la mémoire de la Shoah et estime que Pétain a protégé les Juifs français. Bonsoir Olivier Viviorca.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité ce soir, éminent historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, professeur à l'ENS Paris-Saclay. Je voudrais vous faire écouter les propos du chef de l'État ce matin chez nos confrères de France Bleu, pays d'Auvergne.
Cette histoire, nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens. Et c'est une bonne chose de s'y tenir. Et que je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre. Et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir.
C'est important, une telle prise de position, assez rarissime par ailleurs, de la part d'un chef de l'État.
Oui, c'est important parce qu'il rappelle quand même l'évidence. L'histoire n'appartient pas aux historiens, mais les historiens écrivent des choses, s'appuient sur des documents, et donc il faut effectivement écouter et lire ce qu'ils produisent.
Éric Zemmour, il manipule, puisque ce sont les termes du président, effectivement l'histoire, quand il dit « Vichy a donné les Juifs étrangers et protégé les Juifs français », quand il le dit, quand il l'écrit. C'est historiquement faux ?
Oui, c'est historiquement faux. D'abord, on peut moralement s'interroger sur la valeur d'un tel raisonnement. C'est-à-dire, au fond, les Juifs étrangers, on pouvait les livrer et qu'ils terminent dans les chambres à gaz. Donc c'est déjà un raisonnement curieux. Mais historiquement, c'est sur ce point donc, effectivement, c'est faux. Philippe Pétain n'a jamais protégé les Juifs français. Il faut comprendre que pour Vichy, il y a d'une part un antisémitisme d'État. Donc Vichy va mener une politique antisémite qui correspond à ses racines profondes. Donc Vichy n'est pas du tout ami des Juifs et ne cherche absolument pas à les protéger. Et le deuxième élément, c'est que dans le cadre de la collaboration et compte tenu de l'importance que les nazis attachent à la persécution antisémite, Vichy va utiliser les Juifs comme monnaie d'échange pour satisfaire l'Allemagne et obtenir en retour des concessions. Donc sur ces deux éléments, effectivement, les Juifs français pèsent peu.
Et le rôle de Pétain dans cette période de l'histoire, il a été établi, il a été prouvé, ça ce sont des faits, c'est la main du maréchal qui en 1940 annote le projet de statut des Juifs pour les exclure de la vie publique.
Oui, tout à fait, le maréchal Pétain est moteur. Alors vous savez, il y a toujours le fantasme du chef respectable mal conseillé, donc c'est toujours la faute de... Donc on va vous dire que c'est de la faute de Laval, on va vous dire que c'est la faute de... Non, Pétain est le responsable, et d'ailleurs, c'est à ce titre qu'il a été condamné en 1945.
Vous qui travaillez depuis des années, vous avez travaillé toute votre vie sur cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, en tant qu'historien, est-ce qu'un jour vous vous étiez imaginé, ici dans un studio de radio, à observer une campagne présidentielle où sont convoqués Pétain, Mengele, Dreyfus ?
Non, parce que je pensais qu'avec le discours du Veldiv du président Chirac en 1995, la France avait tourné la page. Et de fait, Vichy n'était plus un enjeu. Si vous regardez la stratégie d'ailleurs d'une partie des milieux nationalistes, l'idée n'était plus de défendre Vichy, mais de montrer que l'extrême droite aussi avait participé à la résistance. Donc ce tournant, si vous voulez, faisait de Vichy un non-objet. Ensuite arrive Éric Zemmour, et Éric Zemmour qui revient sur des faits bien établis, pour des raisons tout à fait politiciennes, bassement politiciennes. Effectivement, je n'imaginais pas que Vichy redevienne un enjeu, à supposer que les Français y attachent de l'importance. Que les Français y attachent de l'importance, et que Zemmour, sur ce point, ait de l'audience. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas encore établi.
Je voudrais vous faire écouter un document RTL. Il y a deux mois, Serge Klarsfeld, le chasseur de nazis, se confiait ici dans RTL Soir de notre émission. Et quand on lui a demandé s'il craignait de voir la mémoire de la Shoah déformée dans les prochaines années, voilà ce qu'il nous a répondu.
La partie est jouée, Vichy est condamné à jamais. Cette vision des milliers de centaines ou de milliers de policiers arrêtant des milliers de familles juives, elle est entrée dans l'histoire, et c'est comme dire que deux et deux ne font pas quatre. Donc je n'ai absolument pas peur de l'avenir de la mémoire, de la Shoah.
Et vous, Olivier Viviorca, est-ce que vous avez peur de l'avenir de la mémoire de la Shoah? Est-ce que cela vous inquiète? Est-ce que cela vous préoccupe aujourd'hui?
Alors, je voudrais quand même rappeler un élément, c'est que tous les Français ont été victimes de Vichy. Mmh. Les Juifs, bien sûr. Mais la France a été le seul régime à envoyer ses propres ressortissants au travail obligatoire en Allemagne. Donc, il ne faut pas non plus polariser, même si c'est bien entendu capital, tout sur les Juifs. Vichy a été également criminel contre les résistants, contre les communistes, contre les républicains, contre les travailleurs. Ceci posé, je réponds à votre question. Je serais un peu moins optimiste que Serge Klarsfeld, tout simplement parce que si, effectivement, du point de vue scientifique, on a beaucoup plus avancé, beaucoup plus progressé que dans les années 50 ou 60, où au fond nous étions assez ignorants de la Shoah, eh bien, vous avez, par le phénomène des réseaux sociaux, vous avez, par la prise de parole d'individus qui mentent, il faut le dire, un statut de la vérité qui s'altère. Qu'est-ce que cela deviendra? Et qu'est-ce que cela deviendra si aussi l'école, le lycée, l'université ne sont plus en mesure de tenir leurs engagements et de dire le vrai?
Comment on maintient aujourd'hui cette mémoire? Parce que les derniers rescapés des camps de la mort, les derniers résistants vont s'éteindre dans les années à venir. Comment faire en sorte que notre pays n'oublie jamais?
La mémoire ne transite pas que par les seuls témoins, sinon on ne se souviendrait plus de la Révolution française, on ne se souviendrait plus de la Grande Guerre. Donc elle transite par des vecteurs multiples. Vous avez bien entendu les musées, les commémorations, mais aussi les films et les romans. Quelqu'un comme Patrick Modiano aide à faire vivre le souvenir de la Shoah, aussi bien quelque part qu'un musée. Donc vous avez des canaux très divers, il faut bien évidemment les soutenir, et faire aussi attention, me semble-t-il, à ce que les commémorations ne versent pas dans l'incantation du devoir de mémoire, qu'elles soient suffisamment attractives, intéressantes, et porteuse de sens pour parler aux jeunes générations, pour qui, au fond, Vichy, c'est un phénomène très lointain.
Vous êtes un historien réputé, mais vous êtes aussi un petit-fils. Petit-fils de grands-parents qui vivaient à Nice, qui ont été déportés, qui sont passés par Drancy, qui ont perdu la vie à Auschwitz. Au-delà de l'historien, vous, l'homme que vous êtes, comment vous réagissez quand vous entendez ainsi l'histoire bousculée?
Si vous voulez, je suis à la fois accablé et, dans une certaine mesure, aussi confiant. Je suis accablé parce que ce déferlement de mensonges et de haine, car le problème de Zemmour est qu'il inocule dans le débat public du venin, de la haine. Donc tout cela ne me paraît pas très bon pour le pays. Dans le même temps, je pense que la France est aussi un pays de haute culture, que les citoyens sont quand même bien informés, vous y contribuez, et qu'ils sauront, au fond, trier le bon grain de l'ivraie. Donc, confiance dans une certaine mesure, inquiétude dans l'autre.
Merci Olivier Viviorca d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Vous, l'historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, au moment donc où Emmanuel Macron poursuit son déplacement à Vichy, ville chargée du passé de ce conflit. Une petite pause dans RTL Soir, et ensuite il y aura les dessous de l'actu, les dessous du road trip de la rédaction Paris-Saint-Malo en Zoé électrique aujourd'hui. Mission accomplie. Et puis laissez-vous tenter dernière, 100 ans de radio à la télé ce soir. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL. Bonne fin de journée, 18h31.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous vous branchez à l'instant, on vous rappelle les grands titres de l'actualité. Marion Calais.
Après la région PACA hier, trois nouvelles régions ont activé ce soir leur plan blanc pour faire face à l'afflux de malades aux urgences. Il s'agit des Pays de la Loire, de l'Occitanie et de la Bourgogne-Franche-Comté. Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, nommé à la place d'Alain Grisé, le ministre en charge des PME, a démissionné aujourd'hui après avoir été condamné pour ne pas avoir déclaré tout son patrimoine lors de sa nomination. Et puis le foot, ce soir 21h, Wolfsburg face à Lille en Ligue des Champions. Ce sera à suivre en direct sur RTL.
C'est noté, merci Marion, bonne soirée. Quid du temps, cher Peggy?
Plus calme, alors globalement on aura un temps humide, et surtout gris sur l'ouest du pays, sec sur les régions centrales entre l'Île-de-France et la Méditerranée, et sur le flanc est encore de la neige à basse altitude sous un ciel gris, le tout sous des températures de saison de 4 à 10 degrés jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous de la mission RTL du jour. Christophe Bourou et Jonathan Griveaux sont partis ce matin de nos studios RTL à Neuilly-sur-Seine, direction la mer, Saint-Malo, 400 km à bord d'une Renault Zoé électrique. Objectif, vérifier si l'autonomie de 320 km est une légende ou non. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Alors pour ceux qui ont raté le fil rouge tout au long de la journée, vous avez réussi à rallier Saint-Malo.
Eh oui, mais en 9 heures, alors certes pas national et départemental, mais en partant à 5 heures du matin de RTL, nous avons vu les remparts de Saint-Malo, qu'à 14 heures, alors périple qui n'ait pas été un long fleuve tranquille, d'abord parce qu'avec le froid, il faut savoir qu'une voiture électrique perd jusqu'à 20% de son autonomie, ce qui nous est arrivé. Ensuite, c'est vrai, bon, j'ai un peu poussé le chauffage, résultat, ça fait bondir la consommation, là aussi de 20%, donc on a parfois avec Jonathan choisi de couper le chauffage et de rouler, c'est vrai, en doudoune pour gagner de précieux kilomètres. Mais malgré tout ça, sur le trajet, on s'est rechargé une seule fois. La grosse difficulté, si vous voulez, c'est de trouver une borne en état de marche. On a eu plusieurs qui étaient hors service. On a dû appeler même des services techniques. Mais, et puis une fois, on a dû attendre une bonne demi-heure car devant nous, il y avait deux voitures qui étaient en train de se charger.
Bon, alors sur l'autonomie, on sait qu'il y a la durée sur le papier, la durée sur le terrain. C'est vrai qu'on a un peu poussé loin l'expérience parce que partir en vacances, Christophe, c'est pas franchement l'objectif de ce genre de véhicule, on est d'accord?
Oui, la Zoé, c'est une citadine, alors qui est parfaite pour les trajets du quotidien, hein, surtout en ville, où là, on consomme quasiment rien. D'ailleurs, 80% des automobilistes en France font moins de 30 km par jour. Ensuite, on a pu le constater, il y a un vrai, vrai confort de conduite. Et puis là, on vient de faire une recharge, 9,30 €. Alors, c'est vrai que par rapport au thermique, là, ça fait rêver.
Bon, maintenant, il faut revenir, les amis, vous êtes où, là?
Et oui. On est à 100, je regarde le tableau de bord, 150 km de Saint-Malo. Le retour devrait être plus rapide parce qu'on prend l'autoroute, on trouve des bandes de recharge ultra rapides qui rechargent en une demi-heure. Arrivée prévue 21h40, je dis bien arrivée.
En théorie.
Prévue, parce que ouais, en théorie, ça. Vu l'aller, je ne jure de rien.
Très bien. Peggy viendra vous chercher à Vélizy si vous tombez en rade.
Mais bien sûr.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Christophe Bourou, Jonathan Griveaux, les dessous du road trip électrique sur RTL aujourd'hui. Bon courage, les amis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Allez, RTL, 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, place à Laissez-vous tenter dernière. Vous le savez, tous les soirs, on aime, en tout cas la bande de LVT aime vous donner de jolis conseils pour occuper les heures à venir. Et on vous propose de vous asseoir confortablement dans le canapé pour regarder la télé ce soir. Bonsoir Isabelle Morini-Bosque.
Bonsoir Julien.
On va faire le tour des offres proposées. Vu de loin, c'est une soirée riche en programmes diversifiés. Il y en a pour tout le monde.
Et ça reste vrai vu de près.
Tant mieux.
Paris fou, par exemple, sur la 3. Non, non, au sens propre, puisque Des racines et des ailes racontent les 1000 ans d'histoire de ce cœur de Paris inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notez aussi, c'est ma fixette, vous le savez, La France a un incroyable talent sur M6. Julien, il faut absolument que vous mettiez vos enfants devant ce programme formidablement familial. Cela dit, l'urgence du jour est ailleurs.
Alors, quelle est l'urgence du jour? Parce que là, c'est intriguant.
Tintin, elle est sur Paris Première qui, à son tour, nous raconte à 23h les 100 ans de la radio dans un excellent doc signé Laurent Boyer, Daniel Moreau et Jean-Marie Pasquier. On y voit Yves Calvi, Julien Courbet, vous. Bien. Ah. Mais on revoit et on revit aussi les grandes heures des radios, notamment de la nôtre, si riche en anecdotes, par exemple sur la valise RTL, André Torrent raconte.
La valise, quand elle a été gagnée la première fois, c'était 14 000 francs, une grosse somme pour l'époque. j'ai acheté la plus petite des valises. On a rempli cette valise avec des billets de 10 francs parce qu'on s'est aperçu que 14 000 francs, si on mettait ça en grosse coupure, il y avait 3 billets dans la valise. Donc le caissier de RTL est parti faire le tour des banques pour trouver des billets de 10 francs. On a rempli la valise à ras-bord de billets de 10 francs et je l'ai apporté à ce couple de retraités.
Avant d'être reprise par Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes, la valise était itinérante et c'est un certain Michel Drucker qui partait à la chasse aux auditeurs dans les petits coins les plus intimes.
Bonjour monsieur. Oh, excusez-moi, j'ai pas vu que vous étiez dans les toilettes, excusez-moi. Est-ce que, bah non, vous pouvez pas me donner le montant de la valise.
Il n'a donc peut-être pas été question d'argent, mais tout de même de commission, grosse commission. Évoquons maintenant une grande figure de RTL, Ménie Grégoire, Jacques Maillot se souvient.
Un jour, il y a un auditeur qui appelle Ménie Grégoire et qui lui dit « Ménie, je suis scandalisé, l'autre jour je rentre à la maison de façon impromptue et je trouve mon épouse au lit avec un monsieur. » Et Ménie Grégoire fait « Ah oui, effectivement, ça a dû vous décontenancer. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur ?» Et le type lui dit « Oh ben c'est simple, je l'ai sodomisé. » Stupeur à l'antenne. Prend le bas de combat, Rigaud descend, le patron d'RTL. Donc on coupe, on met un disque, etc. Et on a arrêté l'émission en direct et on l'a faite en
La suite sur Paris Première, vous verrez comment les journalistes, interdits de liaison directe par le général de Gaulle en mai 68, eh ben montaient chez l'habitant pour téléphoner leur papier, se faisant au passage offrir à manger. C'est forcément savoureux.
Exactement, un petit moment d'histoire de la radio qui épouse l'histoire de France. Aussi,
absolument.
C'est ce soir sur Paris Première. Très bon choix. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque du Conseil.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Allez, petite pause. Ensuite, RTL Soir continue. On va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement. Cyprien Sini, Céline Andreau, Laurent Tessier, ça y arrive en studio.
Oui.
Enfin,
on est
bonsoir
là.
Les amis.
Bonsoir.
On va défaire la croissance. 6,7% en 2021, disait ce matin sur RTL le gouverneur de la Banque de France. C'est inédit depuis les 30 Glorieuses, mais c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à savoir concrètement qu'est-ce que ça signifie. La réponse juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.